France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, je vous propose en ce début d'année de regarder au-delà de la ligne d'horizon, plus loin, plus haut, de lever la tête pour contempler le ciel et les étoiles. Le ciel et les étoiles sont le domaine qu'a exploré Jean-Pierre Luminet, astrophysicien bien connu. Je ne l'ai évidemment pas invité au micro de France Musique pour parler des trous noirs, car je serais un piètre interlocuteur, mais pour parler de sa passion pour la musique, musique qu'il pratique et écoute depuis toujours et dont l'étendue du répertoire semble aussi vaste que la voûte céleste. Du piano aux étoiles, une autobiographie en musique de Jean-Pierre Luminet chez Le Passeur Éditeur. L'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire dirigé par André Clutin, c'était Bacchus danse seul, extrait de la deuxième suite de Bacchus Ariane d'Albert Roussel. Bonjour Jean-Pierre Luminet.
Bonjour Philippe.
Vous êtes l'astrophysicien connu que l'on connaît et directeur de recherche émérite au CNRS, mais vous venez nous parler de musique, je l'ai dit en introduction, de votre passion, d'un art que vous pratiquez depuis toujours, le piano, dans des répertoires très variés, on va le voir, et puis dans ce livre divisé en plusieurs chapitres, où vous, après un premier chapitre autobiographique, vous faites part ensuite de vos rencontres, de vos goûts et dégoûts en musique, et on apprend que vous avez donc appris très vite un assez grand répertoire, mais vous avez rencontré de nombreux compositeurs de notre temps.
Oui, c'est vrai que donc, comme vous l'avez dit, cultivant avec passion dès mon enfance et mon adolescence les activités donc de mélomane, musicien, pianiste, ces activités ont fini par s'entremêler après, par la suite de ma vie, avec mon activité vraiment professionnelle, qui est celle d'astrophysicien, ce qui m'a permis justement d'avoir ces merveilleuses, de développer ces magnifiques collaborations et parfois même de véritables amitiés avec des créateurs de musique, de musique contemporaine, dont on aura sans doute l'occasion de parler, comme Gérard Griset, Hector Parra plus récemment, et bien d'autres. Donc toutes ces rencontres, évidemment, sont extraordinairement enrichissantes. J'espère de part et d'autre, d'ailleurs.
Et alors, comment ça se passe, Jean-Pierre Luminet? Est-ce que ce sont ces artistes, ces compositeurs qui viennent vous voir parce qu'ils sont intéressés par vos travaux? Ils se disent peut-être que dans ces recherches, il y a des choses à récupérer dans le domaine de l'exploration du son, ou c'est vous qui êtes allé les voir?
Oui, non, c'est la première.
D'accord.
Oui, c'est-à-dire, je reçois des messages et des demandes, hein, je ne vais pas chercher, hein, mais je suis ravi lorsque, effectivement, je reçois des demandes. Alors, notamment, ça s'est déclenché, je le raconte dans le livre, surtout à partir de 1987, c'est l'année où j'ai publié mon premier livre de vulgarisation qui parlait évidemment des trous noirs, et c'était le premier livre, en plus, accessible au public, qui parlait de ça, et il y a des créateurs, et pas seulement en musique, hein. J'ai eu aussi de nombreuses collaborations avec des plasticiens, des architectes, etc. Mais bon, le créateur d'aujourd'hui, il est à l'écoute également de ce qui se passe dans le domaine de la recherche scientifique, parfois avec des concepts assez ardus, hein, les pulsars, les trous noirs, le Big Bang, ce genre de choses. Et ceux qui sont à l'écoute, ils trouvent une source d'inspiration. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à recevoir beaucoup de courriers, de lettres à l'époque, avant le courrier électronique, et qui me proposaient, qui rentraient simplement en contact avec moi. J'ai fait une sélection en fonction des compositeurs que je connaissais déjà plus ou moins, et c'est comme ça que se sont développées ces merveilleuses, qui ont suscité surtout des créations.
Oui, c'est ça, parce que la rencontre avec Gérard Griset, comment ça s'est passé?
La rencontre avec Gérard Griset, à son retour de l'université de Berkeley, où il enseignait la composition musicale, il avait lu un article de vulgarisation que j'avais écrit dans un atlas d'astronomie sur les pulsars, et il a vu en parallèle là-bas l'occasion d'écouter des enregistrements que les radioastronomes s'amusaient à faire de ces toupies célestes qui émettent non pas un son, il n'y a pas de son qui se propage dans l'espace, mais un signal radio à la façon d'un métronome cosmique. Et il s'est dit il faut en faire quelque chose, et donc il m'a écrit une lettre sans savoir du tout que, d'une part, je m'intéressais à la musique contemporaine, ce qui n'est pas si fréquent et qu'en plus je connaissais ses œuvres. J'avais déjà dans ma collection de vinyles ces œuvres de l'époque, modulations, dérives partielles, des œuvres absolument extraordinaires. Donc j'étais évidemment enchanté d'avoir ce contact, et nous avons très rapidement lié une véritable amitié, et au bout de 2 ans nous avons donc conçu cette œuvre, donc Le Noir de l'Étoile, faisant intervenir des rythmes cosmiques captés en direct ou pas au moment de la représentation, qui fait intervenir tout de même des percussionnistes humains. Donc on a une œuvre écrite pour 6 percussionnistes humains et 2 guest stars au sens propre du terme, avec ces enregistrements. Tout ça pour donner l'idée d'un rendez-vous cosmique entre 2 échelles de temps qui en général sont incommensurables. Le temps des astres n'est pas celui du temps des hommes, mais justement par ces rythmes de pulsars qui sont des rythmes, dont certains rythmes, on connaît des milliers de pulsars avec des rythmes différents, mais les 2 pulsars que nous avions sélectionnés avaient des rythmes qui rentraient vraiment dans les rythmes humains habituels. Il y en a un qui tournait 11 fois par seconde sur lui-même, donc c'était un battement assez rapide, et puis un autre dont nous avions tenté réellement un direct moment du concert, et qui guidait complètement la navigation musicale des interprètes, avait un rythme de 84 battements à la minute. C'est finalement un battement de cœur légèrement accéléré. Et évidemment, ça l'a donné une sensation, une sensation d'univers très, très profonde, qui connectait les spectateurs et les auditeurs aux forces cosmiques extraordinairement lointaines, avec des signaux datant de milliers d'années.
La fin de Le Noir de l'Étoile de Gérard Griset, le troisième mouvement, la fin du troisième mouvement de cette œuvre de Gérard Griset, composée donc à partir de vos travaux, Jean-Pierre.
Oui, il ne faut pas seulement dire bien.
Non, enfin, bien sûr.
Voilà, à partir de catalogues fournis par les radioastronomes sur ces pulsars. Alors, dans l'extrait que nous avons entendu, qui était effectivement à la fin, on a entendu que les percussionnistes humains, les percussionnistes célestes, étaient à d'autres moments de la partition. Mais ce qui est aussi intéressant et fascinant, d'ailleurs, dans notre projet, c'était que c'était le passage des pulsars observables à tel ou tel moment de l'année, le passage devant la fenêtre d'un radiotélescope, et comme la Terre tourne, le passage ne dure pas très longtemps, dure quelques minutes à peine, et c'était ces passages-là qu'on appelle les éphémérides en astronomie qui dictaient en fait le moment précis, le jour du concert, le moment précis où ça devait commencer, puisqu'après évidemment le rythme des pulsars devait arriver à un moment extrêmement précis de la partition à 2-3 secondes près. Donc, il y avait justement ce calage entre, comme je le disais, le temps des astres et le temps des hommes.
Oui. Jean-Pierre Luminet, vous évoquez d'autres rencontres. Ouais. Nombreuses d'ailleurs avec d'autres compositeurs, certains connus comme Gratian Fizi, Carole Beffa, qui est venu à ce micro il n'y a pas très longtemps, Régis Campo, Penderecki, qu'on va évoquer un petit peu plus tard, ouais. Et puis d'autres compositeurs moins connus comme Tristan Clay ou Thérèse Brenet.
Oui.
On voit que vous avez un répertoire, un univers esthétique qui est vraiment très large, qui va vraiment au-delà des écoles, des dogmes, des oukases.
Oui, alors ça c'est pour la musique du XXe siècle,
oui.
Mais c'est vrai que moi j'ai fait ma formation musicale en autodidacte, je veux dire à l'écoute, en tant que mélomane, j'entends, non pas en tant que pianiste ou musicien, mais en tant que mélomane, je fais ça par le disque essentiellement, et j'ai exploré toutes les musiques, allant des premières œuvres au Moyen-Âge. Je me souviens notamment d'un disque attribué à Abélard, Xe siècle carrément, qui m'avait beaucoup impressionné, jusqu'à la musique la plus contemporaine, parce que j'ai toujours été curieux de cette voix d'oie, en plus de voir cette évolution extraordinaire, évidemment, du langage musical. Et voilà. Et contrairement à beaucoup, je ne me suis pas arrêté effectivement à Debussy, Ravel ou Bartok. Et après, non, voilà. Donc j'ai écouté aussi Boulez et puis donc Penderecki, la découverte de la musique de la deuxième moitié du XXe siècle. Mais c'est bien aussi, j'ai aussi découvert donc une large palette, évidemment. Et comme vous avez commencé par un extrait de Bacchus et Ariane d'Albert Roussel, c'est vrai que j'ai eu une appétence. Après, il y a des périodes que l'on a pour lesquelles on a plus ou moins d'appétence. Effectivement, c'est vrai que la période de la musique française des 30 ou 40 premières années du siècle, hormis évidemment le trio magique de Debussy, Fauré, Ravel, fourmille de compositeurs moins connus mais absolument exceptionnels. Donc, on a entendu Albert Roussel, le Florent Schmitt dont on
bien
parle
sûr.
Pas beaucoup, qui a écrit des œuvres, Charles Coquelin et quantité d'autres.
Jean-Pierre Luminet, vous venez de dire que vous avez découvert beaucoup de musique par le disque, ou peut-être par la radio aussi, en tout cas par l'écoute. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre va vous accrocher, vous intéresser plus qu'une autre, puisqu'on a très bien compris, c'était pas une histoire d'école, de style, de siècle.
Écoutez, c'est quelque chose d'assez mystérieux, hein. Comme je le raconte juste dans la partie introductive d'ouverture, dans ma petite initiation initiale, les premiers disques de musique classique que j'ai écoutés, comme un de mes instituteurs m'avait fait écouter, j'avais à peine 12 ou 13 ans, je n'avais rien écouté auparavant.
Oui. C'est vraiment
les
grands classiques.
Si je connaissais déjà un petit peu la musique, si je connaissais mon solfège, ça a été d'abord le très classique, c'était Mozart,
Beethoven, les quatre saisons,
Franz, etc. Et effectivement, deux, trois mois plus tard, voyant que ça m'intéressait, il m'avait donné Le Sacre du Printemps. Et pour moi, ça a été un bouleversement total. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai immédiatement. Alors pourquoi ça a résonné en moi? Ces rythmes extraordinaires, cette pulsation rythmique dans un langage instrumental qui n'avait plus grand-chose à voir, même si c'est toujours ancré dans une tradition plus ancienne, bien entendu. Ça m'a absolument fasciné. Et du coup, j'ai effectivement commencé à explorer, toujours par le disque, des compositeurs, et notamment mon introduction finalement à la musique vraiment du XXe siècle plus évolué, qu'on va appeler la musique contemporaine, disons la deuxième moitié du XXe siècle. Ben, ça a commencé à la fois grâce à un de mes maîtres en musique que je mentionne, qui s'appelait Arthur Petronio, un personnage extraordinaire avec lequel j'ai passé simplement une année, lorsque j'étais encore dans mon Cavaillon natal, avant de partir faire toutes mes études à Marseille, puis à Paris, qui était en créateur musical, anticipant de 30 ou 40 ans sur des recherches qui seraient faites plus tard dans ce qu'on appelle la musique concrète, puisqu'il allait dans la nature avec son magnétophone, il enregistrait les bruits de la nature et il faisait des montages avec coupe en collant des petits bouts de bandes magnétiques dans une forme d'expression qu'il avait appelée dès les années 1920, il appelait la verbophonie, en créant donc des œuvres tout à fait étonnantes pour l'époque. Et il m'a ouvert effectivement également à la musique de notre temps, en m'encourageant évidemment à explorer, à découvrir toujours plus de compositeurs. Et je répète, en parallèle après la découverte moi-même des compositeurs de la seconde moitié du XXe siècle. C'est vrai que les premières œuvres de Penderecki, dont je parle pas mal dans le livre, m'ont particulièrement impressionné.
Un extrait de De Natura Sonoris 1 de Christophe Penderecki, qui dirige l'orchestre symphonique de la radio polonaise. Jean-Pierre Luminet, qu'est-ce qui vous parle dans cette musique qui abolit toute notion d'espace et de temps? Est-ce que vous, qui êtes justement toujours le nez pointé vers le ciel et vers l'espace. Est-ce qu'il y a un parallèle entre les deux?
Mais en tout cas, déjà, le titre de l'œuvre, hein, des Natura Sonoris, la nature du son, ça interpelle. Qui crée d'ailleurs une sorte de pont avec le mouvement qui va se développer avec Gérard Grisier et Tristan Murail, qui est justement la musique spectrale, où on s'intéresse à la structure même du son et ses différentes composantes dont avait parlé notamment Olivier Messiaen. Mais au-delà de ça, qui paraît un petit peu abstrait et théorique, c'est simplement la puissance émotionnelle pour moi que cela dégage. Ces micro-intervalles, l'utilisation d'instruments à cordes, avec des techniques
Oui, des modes de jeu très particuliers.
De jeu très particuliers, notamment quand on frappe directement sur le boîtier. Voilà, je trouve ça très, très, très impressionnant. Alors, le rapport cosmique, ben, l'univers dont j'ai un chapitre entier consacré à cette vieille idée, belle idée, un peu fantasmatique de la musique des sphères, selon laquelle l'univers lointain serait harmonieux et que les planètes chanteraient des belles notes. Voilà, ça remonte à Pythagore. C'est une très jolie histoire que je raconte, mais qui est évidemment une histoire largement idéalisée. Et puis, les découvertes de l'astrophysique du XXe siècle montrent qu'au contraire, l'univers est notre univers réel, c'est un univers violent, rempli de cataclysmes. Mais justement, c'est une forme de nouvelle harmonie. L'harmonie, c'est quoi? C'est plus évidemment une harmonie auditive. C'est l'harmonie se traduit plutôt par les lois de la physique, de la relativité générale, physique quantique, qui permettent les lois élégantes et mathématiques, physico-mathématiques, qui permettent de décoder ces événements. Donc, c'est une nouvelle harmonie qui inspire des compositeurs, et on peut sentir justement dans des œuvres comme celle qu'on vient d'écouter de Penderecki un rapport possible entre justement ce chaos cosmique, cette violence cosmique et ce que nous en ressentons, nous donner des sensations d'univers nouvel.
Thank you.
Louis Buckington, extrait de l'album It's Monk Time de Thelonious Monk, un des disques que vous mentionnez dans votre livre du piano aux étoiles, une autobiographie en musique, Jean-Pierre Luminet. Il y a également une sélection de 15 disques qui ont marqué votre vie, notamment ce Bacchus et Ariane que nous écoutions en ouverture. Et puis un chapitre un petit peu plus acide, un petit peu plus amer, chapitre 8, qui s'intitule Le déclin tragique de la culture musicale.
Oui. Alors, avant de dire un mot là-dessus, c'est là tout de même, on vient d'entendre autre chose dans un registre radicalement différent de la musique dite savante écrite, la musique de jazz improvisée, que j'ai découverte également par le disque, d'abord avec les grands pianistes comme Errol Garner, où les décalages de la main gauche me fascinaient, comment il avait même plus besoin de rythmique derrière, il l'a créé, per tatum évidemment, c'est virtuose éblouissant, et puis j'ai découvert Thelonious Monk, et là, pour moi, ça a été vraiment le créateur le plus original de la musique de jazz. Comme je l'explique, effectivement, cette musique-là, qui n'a plus rien à voir avec la musique classique, d'une certaine manière, même s'il y a un jazz classique aujourd'hui, qui a malheureusement également évolué, pas toujours dans le bon sens, en tout cas à mon goût personnel. Ce que je trouve extraordinaire, c'est partir ce qu'on appelle les standards, c'est-à-dire une chanson, même des fois une chansonnette, quelques notes, et puis faire des choses absolument prodigieuses, comme là on vient d'entendre avec Thelonious Monk. Après, c'est vrai que, on me l'a souvent reproché dans mes discussions que j'ai pu avoir avec d'autres mélomane, que mes goûts musicaux soient restreints, même si la palette de la musique dite savante est quand même extraordinairement large du Moyen-Âge jusqu'à la musique la plus contemporaine. Il y a le jazz, mais aussi pour moi, en tout cas mon goût pour le jazz s'est arrêté à peu près dans le jazz, la période post-bebop, le début du free jazz, puis après le jazz est devenu pour moi davantage de la musique de variété. Donc c'est vrai que j'ai un chapitre assez court où je fais une critique que certains jugeront féroce et peut-être injuste envers ce que j'appelle la musique de variété, qui est la musique purement commerciale. Simplement parce que moi je suis aussi, c'est de par ma formation sans doute également de physicien et mathématicien, je suis un adepte de la structure et de la complexité. Et c'est vrai que on a tenté de mesurer d'une certaine façon le niveau de complexité des œuvres musicales. C'est pas une garantie évidemment de la qualité, c'est tout de même quelque chose. Et c'est vrai que dans les musiques commerciales que l'on entend, que l'on déverse à pleines oreilles partout maintenant dans les magasins de vêtements, dans les supermarchés, ce genre de choses, on entend les musiques d'une extraordinaire pauvreté avec des boîtes à rythme qui sont toujours les mêmes, 3-4 accords qui ne changent jamais, des paroles affligeantes et consternantes de banalité. Donc c'est vrai que je fais cette critique assez féroce, et on appelle ça le déclin de la culture musicale.
Bon, c'est juste quelques pages dans un livre qui est quand même beaucoup plus lumineux, beaucoup plus enthousiaste.
Oui, et qui se termine aussi par un grand hommage à Franz Liszt.
Voilà, exactement. Merci encore Jean-Pierre Luminet. Je rappelle le titre de votre livre, Du piano aux étoiles, une autobiographie en musique qui vient de paraître chez Le Passeur éditeur. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Pierre Monteil, attaché de production Annick Aumier. La semaine prochaine, je serai en compagnie de Claude Cos pour évoquer Romain Rolland et ses écrits sur la musique de son temps. D'ici là, excellente journée et excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.